Et dans nos conversations avec Daniel Habert, cette semaine, eh bien, pas de sujet précis, mais plutôt un tour d'horizon de la situation géopolitique mondiale, avec notre ami Daniel Habert, au micro, bien sûr, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin dans nos traditionnelles conversations sur Radio Judaïka dans la matinale. Alors Daniel, aujourd'hui, nous allons aborder nos conversations en deux parties. Pour commencer, on va faire un petit tour d'horizon sur la situation mondiale. Il y a énormément de conflits, que ce soit entre l'Ukraine et la Russie, évidemment la situation au Moyen-Orient, mais également du côté de la Chine et de Taïwan. Où en est-on, Daniel?
Alors depuis que Trump est en action, il rencontre les trois zones de tension qui existent au fond depuis le début de ce siècle, de ce 21e siècle, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Et il jongle avec les trois en fonction des urgences. Il le fait plutôt avec pas mal d'habileté. Et on peut revoir un petit peu la situation qui est assez différente dans ces trois zones de tension. La plus urgente et la plus dangereuse, ça reste quand même la guerre en Ukraine, parce que la Russie est de plus en plus agressive. Et on voit au fond que Trump a compris qu'il avait affaire à un personnage, Poutine, qui est inflexible. Donc il a tenté la séduction. Ça marche pas trop. Alors il tente maintenant de tordre le bras encore à nouveau à Zelensky, faute de mieux. Mais il se heurte quand même à deux obstacles. Le premier, c'est qu'en interne, si vous voulez, tous ceux qui s'occupent de défense aux États-Unis, le complexe militaire et industriel, voient bien que faire en sorte que Zelensky se rende sans condition, capitule, ça serait extrêmement dangereux pour la sécurité américaine et pour la crédibilité américaine. Donc, ils font pression pour que Trump n'aille pas plus loin. Et puis, les Européens, qui ont endossé leur responsabilité à la demande de Trump, font aussi du forcing pour dire non, on peut pas faire n'importe quoi. Et donc finalement, il y a un retrait de Trump et malheureusement la conclusion c'est que la guerre continue. C'est ça qui est la mauvaise nouvelle et jusqu'à ce que quelque chose d'arrive et on le verra. En Asie, c'est assez paradoxal ce qui se passe parce qu'il y a quelques semaines, Xi Jinping et Trump se sont rencontrés et ont fait un peu la reconduction d'une trêve qui est d'ailleurs porté aussi bien par Biden avant lui et par Obama. On va pas se faire la guerre autour de Taïwan, on va même pas faire de la guerre froide, on va faire attention à ce qu'on fait. Et au fond, Xi Jinping a été assez à l'écoute. Mais malheureusement, juste avant d'aller rencontrer Xi Jinping, Trump avait rencontré la première ministre, la première fois qu'une femme est premier ministre au Japon, et avait vraiment consolidé son pouvoir, et elle s'est crue autorisée à un petit peu prendre des initiatives en parole, en disant si la Chine attaque Taïwan, ben écoutez, le Japon ne restera pas indifférent. Ça a déchaîné des passions en Chine. Vous pouvez pas imaginer ce qui se passe. Quasiment un boycott du Japon, aussi bien commercial que sur le plan touristique. Sur les 40 millions de touristes qui viennent chaque année au Japon, la moitié sont des Chinois. Donc c'est vraiment un coup très dur sur l'économie japonaise. Donc il y a cette tension, au fond artificielle, personne ne la demandait, et qui occupe un petit peu l'espace sans faire courir de danger au monde. Alors si vous voulez, il reste la troisième, celle qui nous intéresse le plus, le Moyen-Orient. Donc là, on peut dire qu'en gros, la phase 1 est terminée. Il reste plus que deux morts, un Thaïlandais et un Israélien, que je pense le Hamas essaie de trouver parce que la récompense, s'il les rend, c'est beaucoup de terroristes qui sont libérés. Mais on peut dire que la phase 1 est terminée. Alors, ce qu'on attend, c'est la phase 2. La phase 2, c'est le désarmement du Hamas, c'est la démilitarisation de Gaza, et ça peut pas se faire par Tsahal, disons que ça doit se faire par cette force de stabilisation dont on entend parler sans qu'on en connaisse les contours. En attendant, il s'est passé une opération sur le terrain qui est très claire aujourd'hui. Gaza est coupée en deux, À l'ouest, vous avez le long de la mer, vous avez tous les Palestiniens et le Hamas. Et à l'est de cette ligne de partage, qui est une ligne jaune, vous avez Tsahal avec tout son équipement, ses blindés, etc., qui surveille ce côté ouest. Et ça oblige évidemment Tsahal à être extrêmement vigilant, parce qu'il y a des terroristes qui sortent des tunnels, il y a des bombardements. L'aide humanitaire rentre à flot, comme prévu. Mais ça n'empêche que, à la fois à cause des bombardements et parce qu'il y a une campagne de désinformation qui est étonnamment menée par l'ONU et par les organisations non gouvernementales, Amnesty et autres, la campagne de démonisation d'Israël continue de plus belle, et on voit des manifestations un petit peu partout. Donc, alors que ça devrait être apaisé, on est étonné de voir quand même que cette campagne anti-israélienne, anti-juive, continue. Donc, ça nous rend quand même un petit peu soucieux.
Ouais, vous en avez parlé, hein. Israël presse le Hamas de remettre les deux corps d'otages restants pour passer justement à la phase 2 du plan Trump à Gaza. Où en est-on, Daniel, sur cette phase 2?
Alors, cette phase 2, elle va arriver, mais c'est pas celle qui est la plus importante, parce qu'elle va, cette phase 2, être constituée par un échange entre la force de stabilisation qui va rentrer, qui va prendre la place de Tsahal pour désarmer le Hamas. C'est pour ça que c'est long, parce que personne n'a envie de se coltiner, cette monstruosité qui est de désarmer le Hamas. Mais ça se fera. Donc, l'essentiel, en fait, c'est la phase 3. Et cette phase 3, elle est aussi très très étrange, parce qu'il y a une réalité et puis il y a ce dont on parle. La réalité, c'est que ce que veut Trump, c'est une paix durable au Moyen-Orient, et comme l'ennemi principal, c'est l'Iran, il faut constituer une base en fusionnant tous les amis et les alliés des États-Unis, c'est-à-dire Israël et les pays arabes. Une grande partie sont déjà dans les accords d'Abraham. Il manque plus que l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, c'est elle qui gère tout, qui est la clé. Et MBS joue sa carte personnelle, d'abord en disant à Trump, d'abord je veux établir une relation solide avec vous, une relation bilatérale. Les accords d'Abraham, c'est du multilatéral, ça peut attendre. Et donc, c'est des négociations sur la livraison de F-35, etc. Tout ça c'est un peu difficile. Et donc, MBS utilise cette position un peu de force pour poser des exigences. Et cette exigence, c'est je veux une solution à la question palestinienne, une solution à deux États, hein, pour être très clair, et je veux au moins une perspective. Et donc, Trump est obligé de concrétiser ce qui est dans le plan Trump à 20 points, c'est-à-dire une solution à deux États. C'est ce qui a été d'une certaine manière voté au Conseil de sécurité. Il faut avancer sur la question palestinienne, sachant que ça prendra du temps, que c'est compliqué, etc. Donc on est dans une situation complexe, où en fait la solution à deux États, elle est réclamée par les Arabes, mais en fait elle est dans l'impasse, parce que les Palestiniens n'en veulent pas. Le Hamas a étendu son idéologie non seulement à Gaza, mais sur toute la Judée-Samarie, si bien que l'énorme majorité des Palestiniens veulent un État à la place d'Israël et non pas à côté. Donc, quant à Israël, il dit, dans les conditions actuelles, un État palestinien, c'est tout simplement suicidaire. Donc, vous avez les deux parties qui sont directement concernées par la solution à deux États, qui n'en veulent pas, et tous les autres qui essaient de l'imposer, aussi bien les Européens que les Américains, que les Russes et les Chinois. Tout le monde parle de la solution à deux États, ce qui pour Israël est une sécurisation de son existence, mais qui n'est pas opérationnelle immédiatement. Et donc la seule solution qu'on entrevoit aujourd'hui, c'est une sorte de tutelle des Palestiniens par les Arabes. Et donc là aussi, c'est aux Saoudiens de prendre leurs responsabilités, mais le roi, enfin le prince, n'est pas encore le roi. Son père est encore vivant, donc il a des hésitations. Il a une autre hésitation qui est à la fois l'opinion publique saoudienne, mais aussi l'opinion publique du monde musulman, dont les Arabes sont les garants, parce qu'ils sont les propriétaires des lieux saints. Donc vous voyez, c'est une équation très compliquée, qui aboutit à la conclusion suivante. On est dans l'attente. Tout ça va prendre beaucoup de temps. Et donc ça oblige Israël à être hyper vigilant. La politique de la vigilance préventive, elle est en action tous les jours au Liban face au Hezbollah, devant le Hamas, en Judée-Samarie, en Syrie. Et donc pour Israël, les perspectives de paix, elles sont là, mais l'action quotidienne, elle est des opérations de guerre et une mobilisation assez intense, même si ici en Israël, puisque j'y suis en ce moment, la vie essaye de reprendre son cours. Donc on est dans un entre-deux extrêmement compliqué. Et donc nous suivrons chaque semaine un petit peu l'avancement de tout cela.
Merci beaucoup Daniel Abert pour ce tour d'horizon de la situation géopolitique mondiale. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine, au revoir.